Bonjour et bienvenue dans C'est ta santé, le podcast de la radio Queer as You, dédié à la santé des personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent entouré d'idées reçues, à la fois sensible et essentiel pour de nombreuses familles, je veux dire la gestation pour autrui, ou en abrégé la GPA. Notre objectif est de vous proposer un décryptage clair, rigoureux et accessible, basé sur les connaissances médicales actuelles. Nous allons aborder, premièrement, ce qu'est vraiment la GPA, ensuite, comment se déroule médicalement une gestation pour autrui, puis on verra quels sont les rôles des parents d'intention, des donneuses d'ovocytes et de la gestatrice. Quatrièmement, on étudiera quels sont les risques médicaux réels de la GPA. Et enfin, nous étudierons les spécificités des parcours pour les personnes LGBTQIA+. Ce podcast ne traitera pas des dimensions juridiques, mais uniquement des aspects scientifiques et médicaux de la gestation pour autrui. Et tout d'abord, qu'est-ce que la GPA ? La GPA consiste à ce qu'une personne appelée gestatrice porte une grossesse pour le compte d'un autre individu ou d'un couple qu'on appelle les parents d'intention. Sur le plan médical, il existe deux formes de GPA. La première est la GPA gestationnelle, c'est la norme actuelle. Dans ce cas, la gestatrice n'a aucun lien génétique avec l'enfant. L'embryon provient d'une fécondation in vitro, ou FIV, en utilisant les ovocytes d'une donneuse ou d'une mère intentionnelle, et le sperme d'un donneur ou d'un père intentionnel. La deuxième est la GPA traditionnelle, rare et quasi abandonnée. Dans ce cas, la gestatrice utilise de ses propres ovocytes. Ce modèle soulève des enjeux éthiques et est très rarement pratiqué. Aujourd'hui, plus de 95% des GPA dans le monde sont gestationnelles. Maintenant, nous allons voir pour qui la GPA peut devenir une option. La GPA peut être indiquée lorsque la grossesse est impossible ou non souhaitée. Parmi les situations concernées, on trouve les couples d'hommes, les hommes trans ne souhaitant pas ou ne pouvant pas mener une grossesse, les personnes non binaires ayant recours à un tiers, les femmes cisgenres présentant ou une absence d'utérus, ou une anomalie utérine majeure, ou une contre-indication absolue à la grossesse. Pour les personnes LGBTQIA+, la GPA peut offrir une voie vers la parentalité génétique lorsque la gestation n'est pas possible dans le couple. Et maintenant, quelles sont les grandes étapes médicales d'un parcours de GPA ? La première étape est l'évaluation préalable de la possibilité de réaliser une GPA. Cela concerne trois acteurs : les parents d'intention, la donneuse d'ovocytes et la gestatrice. Tout d'abord, pour les parents d'intention. Pour eux, il est nécessaire de réaliser un bilan infectieux, une analyse de la fertilité, sperme ou ovocyte, une évaluation de la santé générale et de mettre en place un accompagnement psychologique. Ensuite, pour la donneuse d'ovocytes. Là aussi, il faut effectuer un bilan hormonal, un dépistage des infections, une échographie ovarienne, une consultation psychologique, et enfin, une information sur les risques liés à la stimulation. Enfin, pour la gestatrice, celle-ci doit répondre à des critères médicaux et généraux, comme par exemple avoir déjà eu au moins une grossesse menée à terme, ne présenter aucune pathologie chronique instable, avoir un indice de masse corporelle raisonnable, bénéficier d'une absence de tabagisme actif et accepter un suivi psychologique renforcé. Cette première étape pour chacun des intervenants dans la GPA garantit un cadre médical sécurisé. Après l'évaluation préalable, l'étape suivante est la FIV, ou fécondation in vitro. Tout d'abord, il y a la préparation des gamètes, recueil des spermatozoïdes des parents d'intention ou d'un donneur, et stimulation ovarienne chez la donneuse ou la mère intentionnelle. Ensuite, on effectue la ponction ovocytaire. C'est un geste court et peu invasif, réalisé sous sédation et dont le but est de prélever des ovocytes. Cela fait, on procède à la fécondation et la mise en culture de l'embryon. Celle-ci est effectuée soit par fécondation classique, ou bien, en cas de difficulté, par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Dans ce cas, on injecte directement un spermatozoïde dans un ovocyte à l'aide d'une micropipette. Cela fait, on met l'embryon en culture jusqu'au stade de développement de l'embryon appelé blastocyte, c'est-à-dire correspondant au cinquième jour après la fécondation. Parfois, un diagnostic génétique préimplantatoire est réalisé selon les situations. On procède alors à la sélection embryonnaire. Basée sur la morphologie et la dynamique de développement de l'embryon, elle consiste à choisir un ou plusieurs embryons, parmi plusieurs, en fonction de critères précis avant leur implantation dans l'utérus. À ce stade, on procède alors au transfert de l'embryon à la gestatrice. La gestatrice reçoit un traitement hormonal pour préparer son endomètre, des œstrogènes pour favoriser l'épaisseur de l'endomètre, de la progestérone pour synchroniser l'implantation. L'embryon est placé dans l'utérus via un petit cathéter. Ce geste est indolore et ne nécessite pas d'anesthésie. Les taux de grossesse sont d'environ 40 à 60% par transfert, selon l'âge des ovocytes. Quel est le suivi de la grossesse d'une GPA ? Bien évidemment, la gestatrice bénéficie d'un suivi obstétrical classique, c'est-à-dire strict et complet. Suivi standard, échographie du premier trimestre, échographie morphologique à la 22e semaine, dépistage du diabète gestationnel et surveillance de la tension artérielle. Au-delà de ce suivi standard, il existe un suivi plus spécifique en raison de risques légèrement accrus dans les grossesses issues de FIV. Recherche de pré-éclampsie, de placenta previa, de prématurité ou de petit poids de naissance. Ces risques restent modérés mais nécessitent une vigilance accrue. Un accompagnement psychologique est indispensable pour la gestatrice, les parents d'intention et parfois les enfants déjà présents dans l'une ou l'autre famille. La GPA est autant une expérience humaine qu'un processus biomédical. Maintenant, quelles sont les spécificités de la GPA pour les personnes LGBTQIA+ ? Pour les couples d'hommes, les questions courantes qui peuvent se poser sont nombreuses. Choix entre sperme de l'un ou l'autre, alternance pour créer une équité génétique, ou recours à des dons d'ovocytes anonymes ou connus. Pour les hommes trans, plusieurs configurations sont possibles. Utilisation d'ovocytes congelés avant la transition, arrêt temporaire de la testostérone pour une stimulation ovarienne, parfois fertilité masculine si la personne a eu certaines chirurgies ou traitements. Pour les personnes non-binaires, le parcours doit être non-genré, respectueux des identités et adapté aux traitements hormonaux éventuellement en cours. Quel est l'impact des traitements hormonaux ? La testostérone, comme on l'a déjà dit, diminue la fertilité mais ne la supprime pas toujours. Les œstrogènes peuvent réduire la production spermatique, mais des spermatozoïdes peuvent persister. D'où l'importance du conseil en fertilité, idéalement réalisé avant la transition. Maintenant, quels sont les enjeux éthiques et biomédicaux ? Même sans entrer dans les aspects juridiques, plusieurs principes fondamentaux structurent la GPA. Tout d'abord, la notion de consentement éclairé. Toutes les parties doivent disposer d'un consentement libre, informé et révocable. Par ailleurs, l'autonomie corporelle de la gestatrice est indispensable. Celle-ci garde le contrôle total sur sa grossesse et les décisions médicales qui seront prises. Enfin, la prévention de toute forme de pression ou de vulnérabilité est importante. Dans les programmes encadrés, soutien psychologique, indépendance financière, suivi médical proche. Enfin, le bien-être de l'enfant. Les études montrent que le facteur déterminant est la qualité de l'environnement familial et la transparence autour de l'histoire de la naissance. En conclusion, la gestation pour autrui est un processus médical exigeant, extrêmement encadré, qui mobilise plusieurs personnes et repose sur la confiance, la transparence et le respect. Pour de nombreuses personnes LGBTQIA+, couples d'hommes, hommes trans, personnes non binaires, Elle constitue une voie vers la parentalité qui allie sécurité médicale, technologie de procréation assistée et projet familial profondément réfléchi. Au-delà des techniques, la GPA est avant tout une aventure humaine fondée sur la coopération, le soin et l'éthique. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queer As You pour un prochain épisode de C'est ta santé.